Chapitre 10. Dégâts. Madame Richland. Rapace de nécro. L'histoire de la cassette. À l'intérieur du cabanon. L'histoire de la cassette. Suite. 1. Tous les placards de la cuisine avaient été ouverts. Les casseroles et les poêles étaient éparpillés sur le linoléum. La cuisinière Hotpoint avait été décollée du mur et la porte du four bâillait. Le contenu des grosses boîtes en fer, sucre, farine, café, biscuits, était répandu sur le comptoir. Mais celle qui avait contenu de l'argent n'en contenait plus. Et ma première pensée cohérente fut « Ce salopard n'a pas eu le fric ». J'avais déposé tous les billets dans le coffre-fort des mois plus tôt. Dans le salon, le canapé convertible, redevenu un simple canapé maintenant que M. Bowditch n'en avait plus besoin, avait été renversé et les coussins éventrés. Idem pour le fauteuil. Il y avait du rembourrage partout. Au premier étage, c'était pire. Je n'aurais pas besoin d'ouvrir les tiroirs de la commode pour sortir mes affaires. Elles étaient éparpillées sur le plancher de la chambre que j'avais occupée. Mes oreillers avaient été éventrés. Le matelas, pareil. Même chose dans la chambre principale, où le papier peint, arraché du mur, pendait en longs lambeaux. La porte de l'armoire était ouverte, et maintenant que les vêtements formaient un tas sur le sol, les poches des pantalons avaient été retournées, le coffre-fort était apparent. Je remarquais des éraflures autour de la poignée, et d'autres sur la molette du cadran. Il avait tenu bon face aux tentatives du cambrioleur pour le forcer. Par acquis de conscience, je fis la combinaison et l'ouvris. Tout était là. Je refermai la porte, actionnai la molette et redescendis. Assis dans le canapé où M. Bowditch avait dormi, j'appelais les secours pour la troisième fois cette année. Puis j'appelais mon père. 2. Je m'aperçus que je devais faire quelque chose avant l'arrivée de mon père et de la police surtout. Du moins, si j'avais l'intention de mentir, évidemment, et si je voulais que mon mensonge tienne. Après avoir réglé ce problème, je ressortis pour attendre. Mon père avait pris la voiture. Il se gara le long du trottoir. Il n'avait pas amené radar, et je m'en réjouis. Le spectacle de la maison dévastée l'aurait bouleversé plus qu'elle ne l'était déjà après les changements récents survenus dans sa vie. Pendant que mon père faisait le tour du rez-de-chaussée pour examiner les dégâts, je restais dans la cuisine pour ramasser et ranger les poêles et les casseroles. Quand il revint, il m'aida à repousser la cuisinière contre le mur. « Tendu une pipe, Charlie. Qu'est-ce que t'en penses ?» Je lui répondis que je ne savais pas. Mais je croyais le savoir. En revanche, je ne savais pas qui. « Tu veux bien attendre la police, papa ? Je vais faire un tour de l'autre côté de la rue, j'en ai pour une minute. » Madame Richland est rentrée, j'ai vu sa voiture. Il faut que je lui parle.
La fouineuse ?
Elle-même. Tu ne veux pas laisser faire la police ? Si elle a vu quelque chose, je leur dirai d'aller l'interroger.
J'en doute, elle était à l'enterrement avec nous.
N'empêche, il faut que je lui parle. Elle a peut-être remarqué quelque chose avant.
Des types en repérage, par exemple.
Je n'eus pas besoin de frapper à sa porte. Madame Richland occupait son poste habituel au bout de l'allée.
Bonjour, Charlie. Tout va bien? Ton père semblait rudement pressé. Où est la chienne?
Chez moi. Madame Richland, quelqu'un s'est introduit chez M. Bowditch pendant qu'on assistait à l'enterrement et a tout saccagé à l'intérieur.
Oh mon Dieu! C'est vrai?
Elle porta la main à sa poitrine. Vous avez vu quelqu'un dans les parages ces deux derniers jours? Quelqu'un qui n'habite pas dans la rue? Elle réfléchit.
Non, je ne crois pas. Uniquement les livreurs habituels, Federal Express, UPS, l'homme qui vient s'occuper de la pelouse des Houghton. Ça doit leur coûter une fortune, soit dit entre nous. Le facteur avec sa camionnette. Il y a beaucoup de dégâts? Ils ont volé quelque chose?
Franchement, je ne sais pas. La police voudra peut-être...
M'interroger? Bien sûr, avec plaisir. Mais si ça s'est passé pendant qu'on était à l'enterrement...
Oui, je sais. Merci quand même. Je fis demi-tour pour m'en aller.
Ah, il y a aussi ce drôle de petit bonhomme qui vendait des abonnements à des magazines.
Je me retournai. Ah oui?
Et tu devais être à l'école à ce moment-là. Il transportait une sacoche comme celle des facteurs dans le temps, avec un autocollant qui disait « Subscription Service of America », un truc dans le genre. Et dedans, il y avait des échantillons. Time, Newsweek, Vogue, etc. Je lui ai dit que ça ne m'intéressait pas, que je pouvais lire tout ce que je voulais sur Internet. C'est beaucoup plus pratique, non? Et plus écologique. Plus besoin de recycler tout ce papier.
Les bienfaits écologiques de la lecture en ligne sur l'environnement ne m'intéressaient pas. Il a frappé à d'autres portes dans la rue? Je devinais que si quelqu'un pouvait répondre à cette question, c'était elle.
Oui, quelques-unes. Je crois qu'il est allé chez M. Bowditch, mais le pauvre vieux n'est pas venu ouvrir. Sans doute qu'il ne se sentait pas très bien. Ou alors, je parie qu'il n'aimait pas trop les visiteurs. Hein? Je suis contente que tu aies sympathisé avec lui. Quelle tristesse qu'il nous ait quittés. Quand on parle des animaux, on dit qu'ils ont traversé le pont de l'arc-en-ciel. Je trouve ça beau, pas toi?
Tim, c'est très joli. Je détestais cette expression.
Je suppose que son chien va bientôt traverser le pont de l'arc-en-ciel, lui aussi. Il est tellement maigre, le pauvre. Et il a la truffe toute blanche. Tu vas le garder?
Radar? Bien sûr. Je ne pris pas la peine de lui dire que Radar était une femelle. À quoi il ressemblait, ce vendeur de magazines?
Oh, c'était un drôle de petit bonhomme, avec une drôle de façon de marcher et de parler. On aurait dit qu'il sautillait, un peu comme un enfant. Et quand je lui ai dit que je ne voulais pas m'abonner à ses magazines, il a répondu « T'as Kodak !» Tu crois que c'est lui le cambrioleur? Il n'avait pas l'air très dangereux, en tout cas. C'était juste un drôle de petit bonhomme avec une drôle de façon de parler. Il répétait souvent « Ha ha !»« Ha ha !» Oui, ce n'était pas un vrai rire, juste « Ha ha !» 70% de réduction par rapport à la vente en kiosque, madame. « Ha ha !» Et il était petit pour un homme. Il faisait ma taille, à peu près. Tu penses que c'est lui?
Ça m'étonnerait.
Il portait une casquette des White Sox, je m'en souviens, et un pantalon en velours côtelé. Il y avait un cercle rouge sur la casquette.
3. J'étais partant pour remettre de l'ordre dans toute la maison, mais mon père estimait qu'on devait attendre la police. Ils voudront sûrement récolter des indices. Ils débarquèrent une dizaine de minutes plus tard à bord d'une voiture de patrouille et d'un véhicule banalisé. Celui qui le conduisait avait les cheveux blancs et une énorme bedaine. Il se présenta, inspecteur Gleason. Les deux agents en tenue étaient les officiers Whitmark et Cooper. Whitmark était muni d'un caméscope, Cooper d'une petite valise qui ressemblait à une lunchbox dont je devinais qu'elle contenait de quoi relever les indices. Gleason survola les dégâts avec un manque d'intérêt flagrant. Il soulevait régulièrement les pans de sa veste à carreaux, comme s'il battait des ailes pour remonter son pantalon. Je supposais qu'il lui restait encore un an ou deux à tirer avant de recevoir une montre en or ou une canne à pêche lors de son pot de départ en retraite. En attendant, il purgeait sa peine. Il ordonna à Whitmark de filmer le salon et envoya Cooper à l'étage. Il posa quelques questions, adressé à mon père, alors que c'était moi qui avais découvert l'effraction, et il nota les réponses dans un petit calepin. Il le referma d'un geste brusque, le fourra dans la poche intérieure de sa veste et remonta son pantalon.
Des rapaces de nécros. J'en ai vu des centaines.
C'est quoi ça? Demandai-je. Je jetai un coup d'œil à mon père et je vis qu'il connaissait la réponse. Peut-être avait-il compris dès qu'il était entré dans la maison.
Quand son avis de décès a-t-il été publié dans le journal?
Hier, dis-je. Sa kiné a rempli le formulaire pour le journal peu de temps après sa mort et je l'ai aidé à combler les trous. Gleason hocha la tête.
Ouais, j'ai vu ça 100 fois, répéta-t-il. Ces rapaces lisent le journal pour savoir quand a lieu l'enterrement et à quel moment la maison sera vide. Ils enfoncent la porte et ils raflent tout ce qui semble avoir de la valeur. Dressez la liste de tout ce qui a disparu et apportez-la au poste.
Et les empreintes? Demanda mon père.
Gleason haussa les épaules.
Il portait sûrement des gants. De nos jours, tout le monde regarde les séries policières, surtout les criminels. Dans ce genre d'affaires, on...
Lieutenant?
C'était la voix de Cooper venue de l'étage.
On a un coffre dans la chambre principale!
Ah, voilà qui est intéressant, dit Gleason.
Il nous précéda au premier. Il montait lentement, utilisant la rampe pour se hisser de marche en marche, et quand il arriva en haut, il était essoufflé et écarlate. Il remonta son pantalon encore une fois et pénétra dans la chambre de M. Bowditch. Il se pencha en avant pour examiner le coffre.
« Ah ! Quelqu'un s'est cassé les dents ?»
Pas difficile à deviner. Whitmark, le cinéaste attitré des forces de police locales, supposais-je, entra à son tour et se mit à filmer.
« Je relève les empreintes, chef ?»
demanda Cooper. Il ouvrait déjà sa lunchbox.
« Ouais, on aura peut-être un coup de chance, »
répondit l'enquêteur. J'hésite à employer ce mot.
« Notre homme a peut-être enlevé ses gants pour essayer de trouver la combinaison en voyant qu'il n'arrivait pas à forcer le coffre. »
Cooper répandit de la poudre noire sur la porte du coffre. La majeure partie retomba sur le plancher. Comme si je n'avais pas assez de travail. Cooper observa son œuvre, puis s'écarta pour que Gleason puisse en faire autant.
« Tout a été effacé !»
déclara celui-ci en se redressant et en remontant son pantalon de manière particulièrement brutale cette fois. Évidemment que tout avait été effacé. Par mes soins, après avoir appelé la police, le cambrioleur avait peut-être laissé ses empreintes, mais elles devaient disparaître, hélas, car les miennes s'y trouvaient aussi.
« Vous ne connaissez pas la combinaison, je suppose. »
La question de Gleason était adressée à mon père, évidemment.
« C'est la première fois que j'entre dans cette chambre. Demandez plutôt à Charlie, c'était lui l'auxiliaire de vie du vieil homme. »
« Auxiliaire de vie. » L'expression décrivait assez bien la réalité, mais ça me faisait bizarre. Sans doute parce que c'était un terme qu'on appliquait généralement aux adultes. « Aucune idée, » dis-je. Gleason se pencha de nouveau vers le coffre, mais brièvement, comme si cela avait cessé de l'intéresser.
« Celui qui hérite de cette baraque devra faire appel à un serrurier. Ou alors, si ça ne marche pas, un perceur de coffre qui sait se servir de la nitro. J'en connais deux à cette ville, derrière les barreaux. »
Il s'esclaffa.
« Je parie qu'il n'y a pas grand-chose à l'intérieur. Des vieux papelards et peut-être des boutons de manchette. Vous vous souvenez de tout ce cirque autour du coffre-fort d'Al Capone? Geraldo Rivera est passé pour un idiot sur ce coup-là. Bon, n'oubliez pas de venir au poste pour faire une déposition, monsieur Reed. »
Il s'adressait à mon père une fois de plus. Parfois, je comprenais pourquoi les femmes étaient en rogne. 4. Je passais la nuit dans notre petite chambre d'amis au rez-de-chaussée. C'était le bureau et la pièce de couture de ma mère de son vivant, et ça l'était resté durant les années d'alcoolisme de mon père, comme une sorte de musée. Après 6 mois d'abstinence, il en avait fait une chambre avec mon aide. Lindy y passait la nuit parfois, et aussi un ou deux autres gars abstinents depuis peu dont mon père s'occupait, car c'est comme ça que ça fonctionne chez les AA. J'ai dormi le jour de l'enterrement de M. Bowditch et du cambriolage pour éviter à Radar de monter l'escalier. Je lui étalai une couverture sur le sol, et elle s'endormit aussitôt, roulée en boule. Je restais éveillé beaucoup plus longtemps car le lit était trop petit pour un garçon de presque 2 mètres, mais aussi parce que j'avais un tas de choses en tête. Avant d'éteindre la lumière, je cherchais « Subscription Service of America » dans Google. Cette société de vente d'abonnements existait, mais c'était « Services » au pluriel. Certes, il y avait juste une lettre de différence et Madame Richland avait pu se tromper, mais cette société opérait uniquement en ligne. Elle n'employait pas de démarcheurs. J'en conclus d'abord que ce type était un rapace de nécro, en effet, venu en repérage. Mais ça ne collait pas, car il avait déjà trimballé sa sacoche d'échantillons dans le quartier avant la mort de M. Bowditch. J'étais convaincu néanmoins que le vendeur de magazines était l'homme qui avait tué M. Heinrich. D'ailleurs, comment était mort M. Heinrich, au fait? L'article du Daily Herald ne le précisait pas. Se pouvait-il que le petit homme qui disait Dakota, qui répétait « Ha ha !» l'ait torturé avant de le tuer, pour connaître le nom de l'homme qui planquait de l'or chez lui? Je roulais sur le côté gauche. Mes pieds dépassaient du lit. Je les couvris avec le drap et la couverture. Peut-être que la torture n'avait pas été nécessaire. Peut-être que M. Dakota avait simplement promis à M. Heinrich de lui laisser la vie sauve s'il lui donnait le nom. Je me tournai sur le côté droit, obligé de remettre le drap et la couverture sur mes pieds. Radar leva la tête, émit une sorte de « ouf » et se rendormit. Autre question. L'inspecteur Gleeson avait-il interrogé Madame Richland? Si oui, allait-il en déduire que M. Bowditch était déjà visé avant de mourir? Ou bien penserait-il que ce drôle de petit bonhomme sillonnait le quartier en quête de cibles dites d'opportunité? Penserait-il que ce type était un simple démarcheur? S'il avait pris la peine d'interroger la voisine, évidemment. Question jackpot. Si M. Dakodak était toujours à la recherche de l'or, allait-il revenir? Passer du côté droit au côté gauche, du côté gauche au côté droit, tirer le drap et la couverture. Finalement, je me dis que plus vite j'écouterai la cassette de M. Bowditch, mieux ce serait, et après cela je m'endormis enfin. Je rêvais que le petit homme à la démarche bondissante m'étranglait. Et quand je me réveillais le lendemain matin, le drap et la couverture étaient entortillés autour de mon cou. 5. Le vendredi, j'allais au lycée pour que Madame Silvius n'oublie pas ma tête, mais le samedi, j'annonçais à mon père que je retournais chez M. Bowditch pour commencer à tout nettoyer. Il proposa de m'aider. « Non, pas la peine. Reste ici avec Radar. Repose-toi, profite de ton week-end. »«
Tu es sûr ? Cette maison est pleine de souvenirs pour toi. »
Certain.
Bon, ok. Mais appelle-moi si ça devient trop dur. Ou si ça te fait flipper.
Promis.
Dommage qu'il ne t'ait pas donné la combinaison du coffre. On va vraiment être obligé de faire appel à quelqu'un pour l'ouvrir et savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Je demanderai autour de moi au boulot la semaine prochaine. Je suis sûr que quelqu'un connaît un perceur de coffre. Qui n'est pas en prison.
Ah bon ?
Les enquêteurs des compagnies d'assurance connaissent toutes sortes d'individus louches, Charlie. Mais Gleeson a certainement raison. Ce coffre doit renfermer de vieux avis d'imposition, si Bowditch remplissait des déclarations, ce dont je doute, et des boutons de manchette. Mais peut-être qu'on trouvera des trucs qui nous aideront à en savoir plus sur lui.
On verra bien, dis-je, pensant au revolver et au magnétophone. Et ne gâte pas trop Radar.
Rapporte ses médicaments.
C'est fait, ils sont sur le comptoir de la cuisine.
Bravo, fiston. Appelle-moi en cas de besoin. J'arriverai en courant.
Un chic type, mon père. Surtout depuis qu'il avait cessé de boire. Je l'ai déjà dit, je sais, mais ça mérite d'être répété. 6. Des bandes de plastique jaune en quête de police étaient entortillées autour des planches de la clôture. En vérité, l'enquête, si on pouvait employer ce terme, avait pris fin quand Gleeson et les deux agents en uniforme étaient repartis. Mais tant que papa ou moi n'avions pas trouvé quelqu'un pour réparer la serrure de la porte de derrière, je jugeais préférable de laisser les rues balises. Je contournais la maison, mais avant d'y entrer, je marchais jusqu'au cabanon et m'arrêtais devant l'entrée. Aucun bruit ne s'en échappait. Pas de grattement, pas de raclement sourd, ni d'étranges miaulements. Non, évidemment. Me dis-je. M. Bowditch a tué la chose qui produisait ces bruits. Deux coups de revolver, boum boum, et extinction des feux. Je sortis de ma poche le trousseau de clés et envisageais de les essayer l'une après l'autre jusqu'à ce que je trouve la bonne, mais je le rangeais finalement. J'écouterai la cassette d'abord. Et si j'entendais uniquement M. Bowditch chantonner « Home on the Range » ou « A Bicycle Built for Two » défoncé à l'oxycodone, j'en serais pour mes frais. Mais j'en doutais. Tout le reste dont tu auras besoin se trouve également sous le... m'avait-il dit au téléphone. Et le magnétophone était sous le lit. Je le sortis du coffre-fort. C'était un vieil appareil à cassette noire, pas aussi antique que le téléviseur, mais loin d'être neuf. La technologie avait poursuivi sa marche en avant depuis. Je redescendis dans la cuisine, posai le magnétophone sur la table et enfonçai la touche play. Rien. Uniquement le sifflement de la bande magnétique qui frotte contre les têtes de lecture. Je commençais à redouter un fiasco, style le coffre d'Al Capone dont avait parlé Gleeson, avant de comprendre que M. Bowditch n'avait pas rembobiné la bande. Certainement parce qu'il était en train d'enregistrer au moment de sa crise cardiaque. Cette pensée me fila un peu les jetons. « Ah putain, ça fait mal », avait-il dit. « C'est comme un fer rouge dans la poitrine ». J'enfonçai la touche rewind. La bande mit longtemps à se rembobiner. Lorsqu'elle s'arrêta enfin, clic, j'appuyai de nouveau sur play. Il y eut quelques secondes de silence, puis un grand bruit sourd, suivi d'une respiration rauque que je connaissais bien. Monsieur Bodditch se mit à parler. J'ai dit au début que j'étais certain de pouvoir raconter cette histoire, mais que j'étais sûr aussi que personne n'y croirait. C'est à partir de là que vous devenez incrédule.